Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Tatiana Mosso et Chérubin Dorsil, bonsoir et bienvenue à cette édition du lundi 7 mars 2016. Au sommaire ce soir.
Niger, à quand le début de la campagne pour le second tour ?
La Cour constitutionnelle, qui est le juge électoral, n'a pas en effet proclamé les résultats définitifs du premier tour, qui est la condition du début de la dite campagne.
Nous ferons le point avec notre correspondant à Niamey.
Au Tchad, le Conseil constitutionnel écarte plusieurs candidats, dont l'opposant Garedji Yorongar de la présidentielle du 10 avril.
La raison du rejet de la candidature n'a pas de base légale, et c'est cela qui est dommage.
Les 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU se rendent en Guinée-Bissau pour une évaluation de la crise politique.
Attaque terroriste en Tunisie, près de la Libye, bilan plusieurs dizaines de morts, dont 10 agents des forces de l'ordre.
Crise migratoire, la Turquie demande à l'Union européenne 3 milliards d'euros supplémentaires.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal. En Tunisie, au moins 28 djihadistes, 10 membres des forces de l'ordre et 7 civils ont été tués aujourd'hui lors d'attaques simultanées à Ben Gardan, près de la frontière libyenne. Maïlis Hegel.
Ces attaques terroristes ont été perpétrées à l'aube et ont visé une caserne de l'armée, un poste de police et de gendarmerie à Ben Gardan, une localité de 60 000 habitants. Un couvre-feu a été instauré et les patrouilles terrestres et aériennes vont être renforcées le long de la frontière avec la Libye, qui a été fermée pour une durée indéterminée. Ces attaques sont d'une ampleur inédite et interviennent moins d'une semaine après de premières heures armées dans cette même région. 5 extrémistes venus de Libye, dont au moins 4 d'origine tunisienne, avaient été tués par des unités de l'armée alors qu'ils étaient retranchés dans une maison. Le ministère de l'Intérieur avait, de son côté, évoqué la possible entrée sur le sol tunisien de groupes terroristes à la suite d'un raid américain le 19 février contre un camp d'entraînement du groupe État islamique à Sabrata, dans l'ouest libyen, à moins de 100 km de la frontière tunisienne. Un bombardement qui avait fait des dizaines de morts. La Tunisie, qui compte plus de 5000 ressortissants dans les rangs d'organisations djihadistes à l'étranger, exprime régulièrement son inquiétude à propos de la situation en Libye.
Au Niger, on attend toujours la proclamation des résultats définitifs du premier tour de l'élection présidentielle. La Cour constitutionnelle semble prendre son temps, ce qui retarde le début de la campagne pour le second tour prévu le 20 mars. Le point avec notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
Prévu pour démarrer le 6 mars à 0h selon le chronogramme de la Commission électorale nationale indépendante, la campagne pour le deuxième tour de la présidentielle n'a toujours pas démarré. La Cour constitutionnelle, qui est le juge électoral, n'a pas en effet proclamé les résultats définitifs du premier tour, qui est la condition du début de la dite campagne. La Commission électorale nationale indépendante a en effet tablé sur la date du 5 mars pour que le juge électoral proclame les résultats définitifs et jusqu'à cette date, rien. Or, dans les textes, la Cour constitutionnelle dispose de 15 jours à compter de la transmission à elle par la Commission électorale nationale indépendante des résultats provisoires pour proclamer les définitifs. L'on s'achemine donc vers l'une de ces deux options, soit à une campagne de moins de 2 semaines, comme ça a toujours été le cas au Niger pour le second tour d'une élection présidentielle, ou à un report de la date du 20 mars initialement prévue. Dans ce deuxième cas de figure, on risquerait d'aller au-delà du mandat constitutionnel du président sortant qui prend fin le 1er avril à 0h. Les regards sont donc ici tous braqués sur la Cour constitutionnelle. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Au moins 10 personnes, dont une majorité de civils, ont été tuées dans des violences qui ont opposé durant plusieurs jours des groupes armés dans la région de Bambari, dans l'est de la RCA. C'est ce qu'a affirmé aujourd'hui à l'AFP une source de la gendarmerie locale. Des heurts avaient éclaté le 2 mars entre les anti-Balaka, milices chrétiennes et animistes, et les Peuls, armés soutenus par d'ex-rebelles Séléka, majoritairement musulmans, après l'assassinat de 2 jeunes musulmans par des individus non identifiés, a expliqué cette source.
Les États-Unis ont tué par avion et par drone samedi plus de 150 combattants islamistes Chebab qui préparaient une attaque de grande ampleur depuis un camp situé à 200 km au nord de Mogadiscio, a annoncé lundi le Pentagone. Les combattants Chebab étaient sur le point de quitter le camp et représentaient une menace imminente pour les États-Unis et les forces de l'Union africaine, a expliqué le porte-parole du Pentagone, Jeff Davis.
Le juge James Tso de la Haute Cour fédérale d'Abuja a déclaré avoir accepté la mise en place d'un dispositif occultant les témoins de la vue du public pour que ces derniers ne soient pas exposés à un risque évitable. Les témoins seront visibles uniquement du juge, des avocats et des trois accusés, dont Namdi Kanou, directeur de Radio Biafra et dirigeant du mouvement interdit Peuple indigène du Biafra.
Les forces maliennes ont repoussé lundi une attaque menée par des hommes armés dans une localité de la région de Sissako, dans le sud, proche des frontières ivoiriennes et burkinabées, déjà cible d'un assaut djihadiste en 2015. La ville de Misenyi avait été attaquée le 10 juin 2015 par des islamistes qui avaient tué un militaire.
Les 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU sont attendus sans ce jour en Guinée-Bissau pour évaluer la situation politique actuelle. Lionel Gaïma.
Une source à Bissau citant l'ambassadeur d'Angola auprès des Nations Unies, Ismaël Martins, dit que la mission doit se réunir avec les autorités politiques et les forces vives. Elle exhortera à retrouver un accord politique qui permettrait au pays de fonctionner normalement. Selon Ismaël Martins, qui assure la présidence tournante du Conseil, il y a des possibilités d'obtenir une entente entre les parties bissau-guinéennes. La confiance accordée à la Guinée-Bissau par les donateurs et par le peuple suite au succès des dernières élections doit se traduire dans les faits et produire des résultats tangibles pour le pays, a fait savoir l'ambassadeur angolais. Ce dernier a souligné que la visite de la mission du Conseil de sécurité sera brève, mais qu'elle permettra de transmettre un message clair aux Bissau-Guinéens. La délégation, composée d'environ 40 éléments, prévoit de tenir une réunion de haut niveau de l'organe de l'ONU à Bissau, ainsi que de rencontrer les forces vives de la nation, a informé la même source.
Le Parti socialiste français a appelé lundi à un report de l'élection présidentielle au Congo prévue le 20 mars, dénonçant des atteintes à la liberté d'expression des opposants au président Denis Sassou Nguesso. Le Parti socialiste demande aux organisations internationales concernées, particulièrement à l'Union africaine, à l'Union européenne et aux Nations unies, d'user de leur influence pour obtenir le report du scrutin. 9 candidats, dont une femme, sont lancés dans la course à la magistrature suprême au Congo-Brazzaville. Denis Sassou Nguesso, âgé de 72 ans et qui cumule plus de 32 ans au pouvoir, est présenté comme un des grands favoris. Il brigue un troisième mandat.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, l'opposition syrienne a accepté de se rendre à Genève pour de nouvelles négociations pour résoudre le conflit syrien. La trêve entrée en vigueur il y a 10 jours semble tenir sur le terrain. Idriss Fall.
Les pourparlers intersyriens sont prévus en fin de semaine. La délégation du Haut Comité des négociations, c'est-à-dire l'opposition syrienne soutenue par Riyad, a annoncé son arrivée pour vendredi à Genève. Le régime de Bachar al-Assad n'a pas encore donné de date ni l'identité de ses représentants. Stéphane de Mistura, émissaire de l'ONU, avait fixé jeudi pour le début des discussions indirectes sur un nouveau gouvernement, une nouvelle constitution et des élections dans un délai de 18 mois. Les dernières discussions indirectes n'avaient abouti nulle part à cause de la poursuite des violences sur le terrain, mais d'après Rami Abdelrahman, directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, ce dimanche a été la journée la plus calme depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 27 février. Cependant, le front al-Nosra, branche locale d'Al-Qaïda et des rebelles, ont tiré des roquettes sur les forces kurdes au nord d'Alep, faisant au moins 9 morts.
Les Européens se déchiraient une nouvelle fois ce lundi, cette fois sur la fermeture de la route des Balkans aux migrants arrivés en Grèce, lors d'un sommet où ils étaient censés faire front commun pour obtenir de la Turquie qu'elle tarisse les flux. Les précisions de John Linden.
Le sommet extraordinaire des pays européens à Bruxelles devait marquer un durcissement de leur réponse à la crise migratoire, entérinant dans ses conclusions la fermeture de cette route, empruntée l'an dernier par plus de 850 000 migrants, ralliant le nord de l'Europe, mais l'Allemagne a soulevé de fortes réserves. Du fait de ces restrictions, plus de 30 000 migrants sont aujourd'hui bloqués dans des conditions misérables en Grèce, dont quelques 13 000 à la frontière avec la Macédoine. Mais il ne peut s'agir de fermer quoi que ce soit, a lancé lundi la chancelière allemande Angela Merkel. Ce qui importe, c'est que l'on trouve une solution durable avec la Turquie, a ajouté Mme Merkel, prévenant que le sommet pourrait durer de longues heures. Pour sa part, la Turquie a présenté de nouvelles demandes aux 28 chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne. L'une d'elles concerne l'accélération de la libéralisation des visas pour les ressortissants turcs voyageant au sein de l'Union.
Toujours dans l'international, les États-Unis vont imposer des restrictions commerciales aux géants chinois des équipements télécoms ZTE pour avoir violé l'embargo américain contre l'Iran. À partir de mardi, la compagnie figurera de fait sur la liste noire du département américain du commerce qui recense les entreprises dont les agissements sont contraires à la sécurité nationale et aux intérêts de politique étrangère des États-Unis, selon la notification qui doit être publiée au journal officiel.
Un kamikaze a attaqué lundi un tribunal du nord-ouest du Pakistan, tuant au moins 17 personnes. Un attentat revendiqué par des talibans qui affirment vouloir venger la pendaison la semaine dernière d'un islamiste condamné pour meurtre. L'attentat suicide a touché des locaux des autorités judiciaires dans la ville de Chabkadar, en pleine heure de pointe matinale, au moment où avocats et justiciables convergeaient vers le complexe. Au moins 17 personnes ont été tuées et 31 blessées, a indiqué à l'AFP Tariq Hassan, un haut responsable gouvernemental. Les États-Unis avaient-ils averti ? Non, nous continuons. C'était la fin de ce journal. Et vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec John Linden.
La Société Générale de Banque en Côte d'Ivoire et l'opérateur de téléphonie mobile MTN ont lancé un nouveau service vendredi dernier. Jeune Afrique, qui rapporte l'information, indique que ce service permettra aux 250 000 clients de la banque de recharger leur téléphone mobile ou celui d'un proche, ceci à travers une interface accessible sur leur mobile. Au Sénégal, MusicBee, le premier site de téléchargement légal de musique en Afrique francophone, est né. Cette plateforme, officiellement lancée le 24 février 2016 à Dakar, permet de télécharger légalement de la musique via SMS. Pour la société Solide, à l'origine du projet, le concept est simple et innovant. Acheter de la musique par SMS dans des zones où la faible bancarisation des populations ne favorise pas l'achat en ligne par carte de crédit. Au Cameroun, l'honorable Peter William Mandio, député du RDPC parti au pouvoir, accuse Joël Nana Konchou, le directeur général de NEO, la principale société d'électricité du Cameroun, de vouloir déstabiliser le pays. Pour lui, priver les Camerounais d'électricité de manière récurrente les expose au mal-vivre, à l'insécurité. Faute d'électricité, poursuit-il, les Camerounais ont perdu leur fierté et leur dignité d'homme.
La Minute Éco, merci John Linden.
Passons tout de suite à l'actualité sportive avec Eric Manirakiza. Salut Eric.
Salut Gabi.
Alors, on commence avec les performances des Africains évoluant en Angleterre.
Oui, le magicien algérien de Leicester, Riyad Mahrez, a usé de sa baguette magique à Watford, 1-0 en inscrivant son 15e but de la saison. L'attaquant burkinabé Bertrand Traoré a justifié la confiance de Chelsea en ouvrant le score à la 38e minute. Yaya Touré, le relayeur ivoirien de Manchester City, a converti en caviar de l'Espagnol Silva pour ouvrir le score en plaçant son pied en opposition.
Et en Espagne ?
Le milieu défensif sénégalais Alfred Ndiaye a mené le Betis Séville à une précieuse victoire contre Grenade de dimanche. Par contre, le week-end a été moins agréable pour le gardien camerounais de Malaga, Carlos Kameni, qui s'est blessé samedi contre le Deportivo La Corogne.
Allons en France, Eric.
L'international algérien de Lyon, Rachid Ghezal, a été étincelant contre Guingamp. Il est à l'origine des 4 buts sur les 5 marqués. Le malien Cheikh Diabaté des Girondins de Bordeaux a marqué son 7e but de la saison sur pénalty contre Gazlan Ajaccio, mais l'international tunisien Mohamed Larbi a égalisé dans les dernières minutes du match.
Un Égyptien fait parler de lui en Italie.
Oui, effectivement, il a été le meilleur homme du match avec un doublé, une passe décisive contre la Fiorentina vendredi. Il s'agit de Mohamed Salah. Au milieu de terrain, le malien Seydou Keïta a lui aussi été excellent. Le gabonais Mario Lamina et de la Juventus Turin a marqué un but magnifique dimanche sur le terrain de l'Atlanta Bergame. Et enfin, le Ghanéen Alfred Donka a lui aussi marqué un but magnifique qui a coûté cher à Milan.
En Allemagne,
le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang est resté muet face au Bayern Munich et Dortmund n'a pas marqué.
Changeons de disque, parlons basketball.
Oui, Toronto a sombré contre Houston, Détroit a foudroyé Portland, Miami a vaincu Philadelphie, Denver a battu Dallas, Memphis s'est incliné devant Phoenix, Milwaukee a perdu contre Oklahoma City, retentissant exploit de Lakers contre Golden State 112 à 95 et classement Cleveland et Toronto dominent dans la conférence Est, tandis qu'à l'Ouest, Gabi, Golden State et San Antonio que creusent l'écart.
Merci Eric Manirakiza.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Tatiana Mosso et Chérubin Dorsil en votre compagnie. Place au dossier du jour. Première escale ce soir, Cotonou.
Depuis hier soir, tous les regards sont tournés vers la Sénat. La Sénat, c'est la commission électorale nationale autonome du Bénin qui doit donner les grandes tendances du scrutin présidentiel dans ce pays. Les Béninois se félicitent de cette élection qui s'est déroulée, il faut le dire, dans le calme. Les observateurs nationaux et internationaux déployés dans les centres de vote sur toute l'étendue du territoire parlent d'une élection étonnante voulue par un peuple qui tient à sauvegarder la démocratie chèrement acquise. Qu'est-ce qu'on peut retenir au lendemain de ce scrutin présidentiel? Élément de réponse avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur-Adande.
48 heures après le scrutin présidentiel, pas de grande tendance dégagée par les voix officielles, si ce n'est la guerre des chiffres à laquelle se livrent les états-majors des candidats avec la complicité des médias, surtout la presse écrite. Les résultats glanés ça et là donnent pour favori le premier ministre Lionel Zissou, suivi des deux opérateurs économiques Patrice Talon et Sébastien Adjavon, dont les cellules de communication rivalisent à deux pour placer à la deuxième place. Mais seul la Sénat a le pouvoir de donner les grandes tendances de ce scrutin que les observateurs s'accordent à qualifier de paisible. Fatima Tabatoko est la présidente de la plateforme des organisations de la société civile.
Les premières conclusions, c'est que nous avons eu un scrutin apaisé. On ne dira pas qu'il n'y a pas eu de problème, sinon notre plateforme n'aurait pas eu sa raison d'être. Il y a eu des tentatives de corruption sur le terrain. Il y a eu des altercations que parfois nos collègues amplifiaient entre temps de bagarre, mais à chaque fois, nous avons pris la peine de vérifier l'information sur le terrain avant de contacter soit la Sénat, soit les forces de sécurité. Et quand cela a été nécessaire, ils ont tous répondu et ont corrigé au fur et à mesure.
L'association de lutte contre la corruption, le régionalisme et l'ethnocentrisme Alcrère félicite la maturité du peuple béninois et invite la Sénat et la Cour constitutionnelle à donner des résultats qui s'apparentent à la vérité des urnes. Martin Assogba est le président de l'Alcrère.
Nous allons beaucoup plus féliciter la Sénat quand elle va donner les grandes tendances et que nous voulons avoir les grandes tendances qui doivent correspondre aux résultats des dépouillements au niveau de nos différents postes de vote et par rapport à la compilation qui se fera au niveau des arrondissements qui leur sera envoyé, que la Sénat et la Cour constitutionnelle tiennent compte des résultats issus des urnes pour que la volonté du peuple soit exprimée.
Et c'est bien pour cela que le président de la Cour constitutionnelle, Théodore Olo, s'est assuré d'avoir des représentants dans tous les bureaux de vote.
Comme vous le savez, la Constitution nous fait obligation de statuer sur la base des irrégularités que nous aurions pu constater par nous-mêmes. N'étant que 7, nous avons besoin de renforts pour faire ce travail. Et cette fois-ci, exceptionnellement, dans chaque poste de vote, nous avons au moins 2 délégués pour nous permettre, du début jusqu'à la fin, de nous assurer de la qualité du processus électoral, puisque la garantie de la légitimité du président qui sera élu dépend de la qualité aussi du processus électoral.
Mercredi, la Sénat promet donner les grandes tendances afin de situer les candidats et par la même occasion mettre fin à la guerre des chiffres qui actuellement est au cœur de bien de polémiques. De Cotonou, Ginette Fleur-Adande pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Au Tchad, le Conseil constitutionnel a publié la liste définitive des 14 candidats à l'élection présidentielle du 10 avril prochain. Le président Idriss Déby Itno, qui brigue son 5e quinquennat, aura comme adversaire le leader de l'opposition Saleh Kedzabo, l'ancien premier ministre Jim Rangar Dajnandaji et le député de l'opposition Gali Gatan Gote, entre autres. L'opposant historique Ngarinji Yorongar fait partie de la dizaine de candidats écartés par le Conseil, Son emblème ferait problème. Timothée de Nangmaï a joint le professeur Ahmad Mahmat Hassan, constitutionnaliste et enseignant de droit à l'université de N'Djamena.
La question de l'emblème n'est pas une question pour la validation des candidatures. C'est une question simplement d'interdiction. Et l'interdiction est sanctionnée par les dispositions de l'article 13 du Code électoral qui dit que si le candidat utilise des emblèmes qui font la confusion et autres, il sera amendé à 60 000 francs de francs CFA par affiche ou par pancarte. Et il sera aussi contraint par une décision de la CENI de retirer les affiches qui font la confusion avec le tricolore. En principe, c'est quand on est déjà candidat, d'abord qu'on pourrait à la limite être poursuivi et sanctionné. Deuxièmement, en ce qui concerne la même question de l'emblème, si c'est vraiment des emblèmes qui font confusion avec les emblèmes utilisés par un autre candidat, alors là, on vous appelle, on vous informe et vous avez 3 jours pour proposer de nouveaux insignes et de nouveaux emblèmes. Donc c'est des questions qui ne sont pas pour la validité des candidatures, uniquement pour des questions de procédure. Et là, vraiment, je suis désolé, on aurait dû informer M. Yoronga s'il y a des emblèmes à changer ou il y a une confusion quelconque. À la limite, on laisserait M. Yoronga valider sa candidature et quitte à ce qu'on l'avertisse des dispositions pénales qui peuvent lui être appliquées en cas de persistance pour l'utilisation des emblèmes qui font la confusion.
Ces partisans parlent d'une décision politique.
Tout me semble aller dans le sens parce que, franchement, la raison du rejet de la candidature n'a pas de base légale. Et c'est cela qui est dommage. Elle n'a pas de base légale, c'est pour ça qu'elle peut prêter à toute forme d'interprétation, y compris politique.
Quelle pourrait être l'incidence de cette mise à l'écart de l'opposant historique Ngarleji Yorongar?
D'une manière gratuite, le Conseil constitutionnel vient de consacrer Yorongar comme une victime qui pourrait, à la limite, faire des risques de perte au candidat ou au pouvoir ou à d'autres candidats, d'une manière fondée ou non fondée. On le consacre comme une victime et on n'en a pas besoin d'ailleurs de le faire. Yorongar a déjà pour la 4e fois en train de se présenter à la candidature de la présidence de la République. Je pense qu'on aurait laissé les élections assez ouvertes, y compris la validation de la candidature de Yorongar, qui lui a fait usage d'un recours administratif gracieux, connaissant bien son droit et la procédure. Mais là également, le Conseil constitutionnel ne s'est pas ressaisi pour repêcher M. Ngarleji Yorongar. Et c'est dommage parce qu'on aurait dû laisser vraiment ouverte la candidature. La candidature de M. Yorongar ne me semble pas une candidature fallacieuse.
C'était le professeur Ahmad Mahmat Hassan, constitutionnaliste et enseignant de droit à l'université de N'Djamena.
VOA Afrique, N'Djamena, au Tchad, 24 heures sur 24, 93.1 FM.
Suite de notre reportage à Diffa, dans le sud-est du Niger, près du lac Tchad, c'est là que s'est rendu notre envoyé spécial Nicolas Pino sur place. L'économie repart doucement avec la réautorisation du commerce du poivron. Nicolas.
Au marché au poivron de Diffa, le va-et-vient des camions est permanent. Cultivateurs, transporteurs, ils s'activent. L'or rouge du manga est de retour. Depuis 5 mois, son commerce a été autorisé à nouveau dans la région de Diffa. Wanibala Madjare est le directeur des cultivateurs de poivron.
Ça va, le commerce a repris il y a 5 mois. On vend bien aux Nigériens et aussi aux Nigériens.
Depuis plus d'un an, toute la filière du poivron était à l'arrêt. Les autorités locales en avaient interdit la vente car elles soupçonnaient Boko Haram de tirer des revenus importants de ce commerce. Aujourd'hui, il y aurait plus de traçabilité et les populations locales ont déjà fait beaucoup de sacrifices dans la lutte contre le terrorisme, comme l'explique à VOA Afrique le gouverneur de Diffa, le général Abdou Kaza.
Ces populations-là sont responsables, elles sont capables de mener leur commerce de poivron sans qu'il y ait des risques du genre qu'on craint avec les rapports avec Boko Haram. La filière, on ne peut pas dire qu'elle est formellement ou hermétiquement maîtrisée, mais nous pensons qu'il n'y a pas grand problème avec cette filière.
Le sac de 50 kg de poivrons s'échange en ce moment à 24 000 francs CFA, soit 12 000 naira nigérians. Même dans les camps de déplacés, les affaires ont repris. Madou Kaloumi était cultivateur dans le village d'Assaga au Nigeria. Il a fui Boko Haram avec sa femme et ses 3 enfants.
On vend sur Diffa, mais aussi ici dans le camp si on trouve des acheteurs. Ici, c'est difficile. On manque de vivres, d'eau et il y a des problèmes de santé.
D'autres interdictions demeurent en revanche, notamment le transport à moto, une des armes privilégiées des djihadistes de Boko Haram. Pour le Nébé, où le poisson c'est aussi compliqué, Ariel Assouri est le secrétaire général du syndicat des commerçants de Difa.
Le poisson, bon, ce n'est pas bon parce que c'est interdit ici. On n'a pas autorisé de faire le passage de poissons au Nigeria. Ici, surtout à Difa, nous sommes tout près du lac Tchad. Mais malheureusement, vous savez, ces gens-là, ces enfants-là viennent par tous les moyens, ils profitent. Donc c'est pourquoi on a interdit le poisson. Même le poisson, Inch'Allah, dans quelques jours, on va aller voir le gouverneur pour voir vraiment si c'est possible de reprendre les activités du poisson.
Si le commerce du poivron a repris, les échanges entre le Niger et le Nigeria de ce côté-ci de la frontière sont en revanche perturbés par un conflit entre les transporteurs des deux pays, ce qui paralyse le trafic routier. Nicolas Pinault, Difa, VOA Afrique.
VOA Afrique au Niger à Niamey, 24 heures sur 24 sur 102.5 FM.
Les États-Unis veulent plus d'étudiants d'Afrique subsaharienne dans les universités américaines. Pour ce faire, le secrétaire adjoint au commerce chargé de l'industrie et de l'analyse, Marcus Jadot, effectue une visite en Afrique du Sud, en Côte d'Ivoire et au Ghana cette semaine. La délégation va recruter des étudiants pour étudier aux États-Unis et faciliter les partenariats avec les établissements d'enseignants africains. Nathalie Barge a joint à Abidjan la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Ramata Bakayokoli.
Je souhaiterais renforcer la coopération avec les États-Unis et que nos étudiants, qu'il y a plus d'étudiants qu'il y a aux États-Unis, mais je souhaiterais aussi qu'il y ait la mobilité aussi vers la Côte d'Ivoire, parce que je pense que les étudiants américains ont des choses à apprendre aussi de la Côte d'Ivoire, de l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire. Autant nos étudiants ont besoin d'aller dans des grandes écoles, des grandes universités aux États-Unis, nous aussi, nous avons un système d'enseignement où des étudiants des États-Unis peuvent venir pour prendre des cours dans certains domaines.
Qu'est-ce que vous entreprenez éventuellement comme nouveau programme d'échange entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire?
Par exemple, vous avez là, tout ce qui est dans le domaine de la santé, faire connaître toutes nos pathologies. Bien, ils auront une meilleure prise en charge des Africains au niveau des pathologies tropicales. La santé, mais même d'autres domaines. Parce que nous avons aussi des chercheurs qui sont, par exemple, dans les biopesticides. Nous sommes en train de développer des savoir-faire. Hein. Je pense que nous pouvons partager. Nous sommes en train de développer les phytomédicaments. D'ailleurs, même nous avons déjà des collaborations avec les universités américaines. Il y a des programmes qui sont communs que nous logeons en Côte d'Ivoire.
Pourriez-vous en citer quelques-uns, éventuellement?
Nous avons, par exemple, le programme qu'on appelle le programme WAVE, qui est un programme contre le virus du manioc, qui est un programme régional financé en grande partie par la Fondation Bill et Melinda Gates, entre autres. Et puis nous avons beaucoup d'étudiants, bien sûr, les Fulbright, quand ils reviennent, ils développent des savoir-faire qui nous permettent aussi d'avancer. Nous sommes en train de le faire avec d'autres universités, même les universités canadiennes et tout. Donc je pense que ce serait intéressant et que nous puissions même monter des formations conjointes, partagées. Nous aimerions vraiment renforcer les partenariats avec les États-Unis. Je vous avais tantôt parlé du domaine médical, par exemple au niveau de la recherche génétique. Et j'ai même été visiter le laboratoire du professeur Watson, celui qui a découvert la double hélice de l'ADN il n'y a pas très longtemps. Et nous avons une coopération pour mettre un laboratoire de génétique en Côte d'Ivoire avec les États-Unis et un laboratoire de substances naturelles. Donc pour vous dire que nous aimerions vraiment renforcer cette collaboration, que des chercheurs américains aussi viennent et que nous travaillons ensemble et que des chercheurs ivoiriens aillent prendre le savoir-faire là-bas et venir nous aider à développer la Côte d'Ivoire et l'Afrique.
C'était le professeur Ramata Bakayokoli, joint à Abidjan par Nathalie Barge.
Salut les amis, ici Roger Muntou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition à la mise en onde Lionel Gaïma, à la console
Nick Ivanov.
Présentation Tatiana Mosso et Chérubin Dorsey.
Ainsi va le monde aujourd'hui.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.